créé, charbonné,
job,
tôle, gagne-pain,
chagrin,
turbiné,
tôle,
urbain,
gagne-pain,
plancher, créé, charbonné, tué, tôle, gagne-pain,
infirmière,
exécutée,
travailleuse du sexe, preneuse de son, ouvrier agricole. Quel que soit notre rapport au travail, chacune et chacun d'entre nous a une expérience à partager. C'est cette expérience que les chroniques du travail souhaitent explorer. Observer le monde par le prisme du travail et ses conditions d'exercice. Le principe est simple. Un même questionnaire pour toutes et pour tous. Une trame de questions inspirée des enquêtes ouvrières ou enquêtes conscientisantes. Une trame qui parle d'organisation du travail, de hiérarchie, d'outils, de solidarité, d'évaluation, de sens, d'épuisement. Une trame qui mêle vécu et analyse. Salut Myriam.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu fais comme travail ?
Alors, je suis mécanicienne auto. J'ai une formation niveau CAP. Du coup, ça veut dire que je suis plutôt formée sur tout ce qui est maintenance et entretien courant des véhicules. Du petit diagnostic de maintenance, de la préparation au contrôle technique. Mais j'ai pas un niveau de formation, par exemple, sur tout ce qui est diagnostic panne moteur ou une mécanique un peu plus lourde. Voilà.
D'accord. On va parler d'une situation de travail qui est finie pour toi ?
Oui, tout à fait. J'ai arrêté mon dernier emploi en septembre.
D'accord. Et donc c'était quel type de garage lorsque ce dernier emploi tu étais ?
Alors j'ai travaillé pendant 3 ans dans un garage associatif. C'est un garage associatif qui fonctionne quand même à peu près comme une entreprise, dans le sens où ça fonctionne à partir du travail de salarié. Il y a peu de bénévoles investis sur vraiment de la mécanique auto, enfin qui travaillent à l'atelier. La spécificité par rapport à un garage classique, ça va être plus le fait que les tarifs, par exemple, vont pas être vraiment ceux des garages, et ça va permettre à des personnes, par exemple, qui ont des faibles revenus, d'avoir accès à de la réparation avec des tarifs pour des personnes précaires, quoi.
D'accord. Est-ce que tu travaillais à plein temps ? C'était quoi le volume horaire ?
Alors moi j'ai travaillé à temps partiel, mais c'était un choix. Dès qu'on m'a embauché, on m'a demandé si je préférais un 35 heures ou je pouvais aller sur plutôt du 20 heures ou alors entre les deux. Donc moi j'ai travaillé pendant 2 ans à 20 heures et puis la troisième année à 21 heures.
D'accord. Pour quel salaire ? Enfin, t'étais au SMIC, il y avait...
Au SMIC, ouais.
Ok.
Ouais.
D'accord. Est-ce que tu faisais des heures supplémentaires par rapport à ce contrat ?
Non, c'était vraiment très exceptionnel que je reste un peu plus tard que mon heure de fin. Et plutôt globalement, pour mes collègues, c'était le cas aussi. Enfin, très peu de mes collègues dépassaient les horaires.
Ok. Congé payé, c'est pareil qu'un emploi traditionnel, 5 semaines.
5 semaines avec plutôt la possibilité de choisir mes semaines de congé. Il y a eu juste la période de Noël où le garage était fermé sur la période entre Noël et jour de l'an, mais sinon après on pouvait choisir assez librement du coup les périodes de congé.
Ok. Et quel type de contrat que tu avais ?
Alors moi j'étais en CDDI, donc c'est un CDD d'insertion. C'est un CDD en fait, donc c'est un contrat à durée déterminée qui doit être minimum de 4 mois et qui peut aller jusqu'à 2 ans avec la possibilité d'être renouvelable. Et la spécificité du contrat d'insertion, c'est que du coup on doit justifier de démarches d'insertion pour qu'à l'issue de la période de travail, enfin de la fin du contrat, on puisse soit on va dire rebondir sur une formation par la suite ou alors un nouvel emploi.
D'accord.
Et pour ça, normalement, on est accompagné aussi. Par exemple, moi, au travail, dans l'association, il y avait une personne qui occupait le poste de conseillère d'insertion et qui était aussi ma collègue.
D'accord.
Et qui avait pour rôle de m'accompagner justement sur mes démarches.
Et par contre, il n'est pas prévu dans ce type de contrat d'insertion de la formation pendant cette période de travail, pendant le contrat ?
Alors, sur le papier, on peut faire soit des stages dans d'autres entreprises, soit de la formation, c'est négociable avec l'employeur en fait.
Mm-hmm.
Mais c'est prévu par le contrat que justement ça doit permettre d'avoir des périodes de formation ou d'expérience professionnelle dans d'autres entreprises.
T'as pu le faire ?
Pas du tout.
Pourquoi ?
Alors déjà, c'est vrai que moi, j'ai pas trop fait la démarche pour chercher ça. Enfin, j'ai pas trop envisagé. Et si j'avais fait une demande quand même pour faire une formation sur du diagnostic sur les moteurs diesel. Et d'ailleurs, ça avait été une demande de ma conseillère d'insertion de lui donner un peu mes vœux sur des formations que je voulais faire, mais ça n'a jamais été validé. Du coup, j'avais fait 2-3 sélections avec un peu des vœux de celui que j'avais le plus envie de faire et puis celui le moins prioritaire, et puis au final, il n'y en a aucun des trois qui avait été sélectionné.
Donc, pas validé par l'employeur et non. Décision motivée ?
Pas vraiment, non.
D'accord. Est-ce que tu nous décrirais une journée type, comment ça se déroulait, si tu avais des journées complètes ou pas, et comment tu commençais le matin jusqu'au soir?
Ouais. Alors, moi, j'embauchais à 9h. Donc, en général, j'arrivais à 9h moins 5, puisqu'il y avait un petit temps pour aller me changer. Donc, moi, j'étais là... Enfin, j'ai été la seule femme à des moments, mais il y a eu des moments où il y avait des stagiaires aussi qui étaient là. Du coup, on partageait une toute petite pièce pour avoir un vestiaire non mixte, quoi. Donc, j'arrive, je me change, je mets mes habits de travail. Et du coup, quand j'arrive dans l'atelier, en général, c'est l'encadrant technique. Ah oui, parce que voilà, le fait d'être en contrat d'insertion, ça fait aussi que dans l'atelier, il y a une personne qui a le rôle d'encadrant technique et qui va un peu... avoir, on va dire, le rôle de chef d'atelier entre guillemets, alors qu'il y a par ailleurs aussi un chef d'atelier, mais qui va nous répartir un peu le travail sur les différentes prises de rendez-vous qu'il y a sur la journée, et du coup qui va un peu évaluer sur quoi les personnes vont être soit plus à l'aise, soit vont pouvoir se former sur certains postes. Donc en général, j'arrive, on me met sur une voiture, j'ai pas forcément moi une vision en amont de tout ce qui va se passer sur la journée. Je sais pas du tout c'est quoi les voitures qui sont prévues et les réparations prévues sur la journée. Du coup, je me mets sur le poste qu'on choisit pour moi, et puis ça va changer en fonction de ce qui arrive après au fur et à mesure de la demi-journée. Et puis voilà.
Ce jusqu'au midi. Le midi, tu fais ta pause.
Le midi, je fais ma pause. On a une pause de 2h. Je reprends à 14h, et puis 14h ça reprend à peu près sur le même mode que la matinée. Du coup, soit je reprends sur ce que j'ai pas terminé le matin, soit sinon j'ai une nouvelle voiture qui arrive avec un nouveau poste de travail, et puis du coup je vais jusqu'au bout de la réparation, jusqu'à qu'il y ait une autre voiture qui remplace celle qui est terminée, etc. Et je finis à 18h.
Combien est-ce qu'il y a de collègues dans l'atelier ?
Alors, dans l'atelier, il y a un chef d'atelier qui est titulaire de son poste en CDI. Du coup, il y a l'encadrant technique qui est aussi titulaire et qui est là pour justement encadrer les personnes en insertion. Il y a un carrossier qui est en contrat d'insertion. Et après, on est entre 4 et 5, 6 mécanos et, en contrat d'insertion. Ça a été variable. À des moments, on était 3, à des moments, on était 2, à des moments, on était 5. Là, on a... pratiquement tous et toutes le même statut du fait de ce contrat, avec la spécificité que en général parmi nous il y a au moins une personne qui a été recrutée pour faire vraiment pratiquement que de la mécanique lourde, c'est-à-dire entre guillemets tout ce qui est les boîtes de vitesse, les embrayages et les distributions, qui est un peu les tâches qui sont valorisées en termes de, on va dire, de spécialité. Ça et le diagnostic aussi des pannes moteurs, mais ça va être plutôt le chef d'atelier qui va s'en occuper. Mais parmi les contrats d'insertion, il y a toujours eu une personne vraiment recrutée sur ce poste-là.
Et là, c'était pas toi, cette personne ?
Non. Okay. Non. Et c'est un poste qui pouvait m'intéresser. Ouais.
Ok. Du coup, là, c'est qui fait ce travail en général ? Avec toi, tes collègues, c'est des gars, tu disais en majorité des gars.
Alors, alors c'est vrai que je parlais de l'atelier, mais en fait, il y a aussi toute la partie administrative, où il y a aussi des salariés. Donc là, il va y avoir une secrétaire. En fait, c'est vraiment très divisé en termes de genre, justement, entre l'atelier et la partie administrative, puisque dans la partie administrative, il va donc y avoir la conseillère d'insertion qui aussi fait beaucoup de secrétariat, ce qui, parfois, justement, a fait qu'elle ne pouvait pas vraiment tenir son rôle de conseillère d'insertion, puisqu'elle se retrouve plutôt à faire de l'accueil et du secrétariat. Donc, elle qui est là plutôt le matin. Il y a une personne qui est en contrat d'insertion et qui est sur de la comptabilité, du secrétariat et de l'accueil. Et un coordinateur. Et après, le président. Donc, plutôt les personnes qui, du côté administratif, vont avoir des postes plus décisionnels, ça va être plutôt des hommes. Et les personnes qui vont être plus sur du, on va dire, du secrétariat, de l'administratif, de la comptabilité, mais plus courante, là ça va être plus des femmes. Il y a une bénévole aussi qui est là tous les après-midi et qui vient faire du secrétariat.
Ton rapport avec tes collègues, ça se passe comment ?
Alors avec mes collègues de la partie administrative, on a peu de rapports en fait. En général, ça se limite un peu à se dire bonjour le matin et au revoir le soir. Il y a peu de passages entre les deux pôles. Enfin, on se connaît et du coup, il y a des moments où on peut se retrouver, suivant les affinités, autour d'une cigarette à une pause. Mais on n'a pas d'espace de travail commun. On n'a pas de réunion commune. On a peu de visibilité sur concrètement, ça va être quoi le travail des unes et des autres. Et à des moments, justement, ça peut être un peu compliqué. Après mes rapports avec mes collègues plus du côté mécanique auto, globalement ça s'est plutôt bien passé sur ces 3 années. Après, ce que j'ai trouvé à des moments compliqués, c'est le turnover, c'est-à-dire que justement le fait d'avoir beaucoup de postes qui sont pour des personnes recrutées en contrat d'insertion, ça fait qu'en fait les personnes restent souvent sur des périodes assez courtes et du coup ça... Il y a vraiment beaucoup de turnover avec des personnes qui vont rester des fois 3-4 mois, des fois 6 mois, et puis ça sur 3-4 postes en même temps. Donc c'est aussi à chaque fois reconstruire des relations avec des personnes, reconstruire de la confiance sur des choses, parce qu'il y a quand même un minimum de travail d'équipe nécessaire à des moments. Donc ça peut être la partie parfois un peu fatigante et compliquée de toujours repartir un peu de zéro avec des personnes qui arrivent. Et après, au niveau des profils des personnes, le contrat d'insertion fait qu'en fait c'est très très éclectique et divers, quoi. Il y a vraiment beaucoup de profils différents. Ça peut être des très jeunes, des jeunes de 18 ans. Ça peut être des personnes de plus de 50 ans. Enfin, ça va être vraiment des personnes qui sont recrutées parce que le contrat d'insertion permet de recruter sur ce statut des gens éloignés de l'emploi, enfin qu'ils appellent éloignés de l'emploi. Donc des gens en RSA, des gens qui ont été en chômage longue durée, des personnes qui ont plus de 50 ans et qui ont des difficultés à retrouver un travail, des personnes qui ont des handicaps, des jeunes de moins de 26 ans. Du coup, c'est vrai que pour ça, il y a une vraie diversité au niveau des personnes qui sont passées par ces contrats-là.
Tu parlais de la pause clope comme endroit pour se retrouver. Est-ce que vous aviez un lieu dédié pour faire des pauses, manger?
Alors, pour les pause clope, c'est plutôt les parties extérieures du garage. Du coup, c'est pas vraiment un lieu dédié parce que ça peut être aussi un espace de travail. Et c'est pas un espace vraiment tranquille non plus, puisque des fois, ça a pu arriver que tu prends ta pause pour respirer un peu et fumer ta clope, et puis en fait vu que t'es dans l'espace de travail, bah t'as quand même le patron qui va te renvoyer un peu le truc que t'es en train de rien foutre alors que t'es en train de fumer donc il n'y a pas un espace vraiment fléché et dédié qui pourrait rendre le truc un peu tranquille, de dire bah en fait c'est l'espace de pause et c'est clair que c'est ça et c'est pas juste que t'as les mains dans les poches. Après, il y a un espace de pause pour les repas, mais ça va être le vestiaire de mes collègues. Du coup, et aussi l'endroit où il y a l'ordinateur. Donc c'est pas complètement dédié, quoi. Il y a un micro-ondes et une cafetière. Et ça peut être aussi l'espace pour se faire le café, justement, mais c'est tellement pas très agréable que finalement personne reste là pour faire sa pause.
Toi, t'es supérieur avec tes relations avec tes supérieurs, tu disais, tu te prenais un peu des tirs si tu fumes, comme si t'étais en train de rien faire, c'est quoi les relations hiérarchiques? Comment ça s'organise?
Alors moi j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup de supérieurs hiérarchiques et qui savaient pas très bien parfois entre eux qui était sur quoi et du coup qui pouvaient se contredire ou s'envoyer des tirs entre eux. Et ça, c'était compliqué parce que ça faisait aussi beaucoup d'injonctions contradictoires à des moments entre des ordres ou des conseils ou des façons de fonctionner différentes et où en fait les gens règlent les comptes sans le faire entre eux, mais en passant par toi pour faire la médiation. Et du coup, tu te retrouves avec mise d'informations qui ne correspondent pas et des fois, pas trop savoir comment gérer ça. Donc moi, j'avais l'encadrant technique avec qui la relation était plutôt chouette et du coup, qui était une personne, je pense, assez soutenante à la fois sur mes revendications à des moments donnés par rapport à la hiérarchie, mais aussi très accompagnante sur tout ce qui était formation et à plutôt pousser un peu les limites qui étaient posées par la structure. Avec lui, aucun problème pour tout ce qui était pause et tout, au contraire, il était plutôt à nous pousser à le faire. Le chef d'atelier, du coup, qui est aussi un responsable hiérarchique et qui va, qui va plutôt avoir un rôle en fait de donner des conseils sur les réparations et de nous donner un peu des directives sur ce qu'il faut faire sur les voitures. Ouais. Mais qui va pas être trop dans l'organisation de planning, qui va être vraiment plus sur du technique. Après, donc il y a le président qui est là 35 heures par semaine, en fait, qui va être vraiment sur l'organisation générale, prise de rendez-vous, planification, répartition du travail, qui est le responsable du coup des salariés aussi. Donc il y a qui est notre responsable hiérarchique direct, quoi. Enfin, qui va être sur les recrutements, sur les contrats, le salaire. Et avec lui, c'est plus avec lui que ça a pu être compliqué à des moments, puisque c'est lui qui va être beaucoup dans des rôles de cadre, qui va imposer un certain cadre de travail, du coup, et notamment sur les pauses ou des choses comme ça.
Vous avez des réunions dans cette boîte ?
Pas du tout. Non, il n'y a pas de réunion. Le seul moment collectif auquel j'ai participé, c'était une assemblée générale de fin d'année. Mais sinon, il n'y a pas de réunion formalisée. Alors, en tout cas, il n'y a pas des réunions de travail où on organiserait collectivement des choses. C'est vraiment très hiérarchisé là aussi. Il y a le président qui prend des décisions et après, ça s'est répercuté en fonction des statuts des uns et des autres. Pas de réunion. Après, en tant qu'employé en contrat d'insertion, normalement j'étais censé avoir des temps de. D'évaluation, enfin de mise au point sur mon projet avec et la conseillère d'insertion et mon encadrant technique. Mais c'est pas vraiment des réunions de travail, c'est plus sur mon projet professionnel et c'est plus individuel, quoi.
Donc ça, c'est des temps d'évaluation. Il y en a d'autres, à ton avis, dans ton temps de travail, des moments où tu es évalué ? Et si oui, par qui ? À quoi ça sert ? C'est quoi les conséquences ?
Alors, il n'y a rien de formalisé là non plus. Il n'y a pas vraiment de temps d'évaluation formalisé. Après, y a quand même des choses qui sont assez standardisées en termes de temps de travail dédié à une tâche. Du coup, comme on est quand même... sur des espaces de travail différents, on sait qui fait quoi. Et par exemple, quand tu fais une vidange, t'as une heure pour faire une vidange. Donc si t'as mis 3 heures pour faire une vidange, t'as quand même à un moment donné le patron qui va arriver pour te demander ce que t'es en train de faire, quoi. Donc c'est plus de l'évaluation un peu comme ça au quotidien, mais pas y a pas quelque chose de formalisé. Et moi, par exemple, ça, c'est quelque chose qui a pu me manquer à un moment donné. Le fait que... Enfin, autant ça m'a semblé même bizarre que ça me manque, parce que plutôt je trouve ça assez tranquille, en fait, de pas aussi avoir du contrôle sur son travail ou quelque chose de très cadré qui pourrait être un peu source de sanctions ou en tout cas à faire un sentiment de flicage. Mais en fait, des fois, ça fait que c'est flou aussi. On peut avoir le sentiment de pas trop avoir de retour sur son travail ou que ça soit pas très bien cerné comment on travaille. Et par rapport à certaines revendications que je pouvais avoir par rapport à mon poste et à l'évolution de mon poste, à des moments, j'aurais eu besoin à des moments donnés justement qu'on puisse évaluer mon travail et faire des retours et que ça soit un peu visible en fait ce sur quoi je me sentais compétente, ce sur quoi je l'étais vraiment et du coup ce sur quoi je pouvais évoluer ou ce sur quoi par ailleurs justement je devais peut-être plus être formée et qu'on prenne plus le temps de me montrer des choses. Et ça, c'était pas vraiment... c'était pas vraiment formalisé, quoi.
Est-ce que tu as l'impression, évidemment, en 3 ans, que ta formation initiale a progressé, que tu as fait des progrès? Est-ce que tu as ce sentiment-là, 1? Et 2, est-ce qu'il donc il n'a pas pu être reconnu? Ou pas?
Alors, en 3 ans, j'ai vraiment évolué sur tout ce qui était justement maintenance, entretien courant des véhicules. Du coup, sur ça, c'est ce sur quoi j'ai été formée dans le cadre de mon CAP. Mais je manquais d'expérience et en fait, ça m'a vraiment permis d'acquérir cette expérience-là, de voir plein de modèles de voitures différents, plein de systèmes différents. Et du coup, de pouvoir faire des diagnostics assez précis, de voir mes collègues aussi avoir des façons de travailler différentes et du coup d'acquérir aussi un peu leur savoir, leurs expériences à eux avec en fait il peut y avoir vraiment plein de façons de pratiquer ce métier-là et du coup tout le monde a un peu ses outils, ses techniques, ses petits trucs et astuces et ça c'est vraiment intéressant en fait d'avoir une pratique professionnelle pour voir un peu ça, avoir accès à tout ce savoir-là qui est issu de l'expérience. Et du coup, ouais, je quitte du coup cette expérience de travail avec vraiment le sentiment d'être assez légitime et autonome sur tout ce qui est entretien courant, du coup, ce qui correspondra, on va dire, à mon niveau de formation en termes de diplôme. Après, j'avais l'espoir de pouvoir un peu évoluer vers quelque chose de, on va dire, le niveau un peu au-dessus, c'est-à-dire plus le diagnostic, le travail sur les pannes moteurs, la mécanique un peu plus lourde, et ça a été compliqué. J'ai pu le faire un petit peu, mais en m'immisçant dans des failles et pas vraiment de façon officielle. Alors après, j'ai pu être soutenue pour faire ça par certains de mes collègues, mais aussi qui rentraient dans les failles. Et en fait, on n'a jamais réussi à mettre une structure qui faisait que le fait de se former pour avoir le sentiment d'évoluer soit quelque chose qui soit accessible à toutes les personnes qui avaient mon statut. Donc ça, c'est un peu le regret que je peux avoir en quittant ce travail, de ne pas avoir eu le sentiment d'aller plus loin que ce pour quoi j'ai été formée. Et qui me donnerait accès en fait aussi à des travaux plus intéressants, à un salaire plus intéressant, à plus de reconnaissance, à plus de légitimité. Puisque du coup, ça va avoir quand même des enjeux aussi après sur les postes sur lesquels on peut prétendre postuler.
Les routes de la liberté d'expression dans son gros bolide blindé, seul son moteur est sous pression et il se fout pas mal d'essence interdit, éviter les contresens, sa décence le lui interdit et il y va à fond, pas besoin de ceinture, il a les airbags du patriarcat quand il va droit dans le mur, cette fois je l'attends au tournant, c'est le début de ses tourments, c'était son dernier coup de volant, le road movie s'annonce violent, je traque ce connard très facilement quand je vois la crasse crash son pot d'échappement, il y a tellement de trash, papa rouge commence, mais j'ai trouvé des sœurs dans la baie immense, on reprend les boulevards et leurs trottoirs, notre poussée wagon sera leur corbillard, on laissera plus passer tous ces chauffards, on crèvera les pneus des camions bleus à gyrophares. Quand il pense, il prend tous les raccourcis, tous ses chemins mènent à la phallocratie. Si monsieur connard klaxonne, c'est qu'il se sait en sursis. Pour sortir des sentiers battus, on n'hésitera plus à sortir les scies. Monsieur connard prend un mauvais virage et se retrouve coincé dans notre covoiturage. On vient forcer les derniers barrages pour laisser rouiller ce privilège au garage. Au moindre dérapage, on fera des ravages. À la moindre sortie, il vous fera le pavage. Les harpies ne passent plus parmi le détour. Les hystériques démarrent au quart de tour. À peine une amende quand il grille le feu rouge. Quand il fauche une sorte, c'est pas leur radar qui bouge. Le silence, pas de vengeance. Voilà la conduite qu'on nous offre. On a le corps du mari de Jacqueline sauvage dans le coffre. Et tandis que monsieur Connard sèche sur la banquette arrière et qu'on confisque sa parole pour sa mise en fourrière et qu'on emmène monsieur Connard faire son voyage funéraire, rien ne nous empêchera plus de suivre notre itinéraire car il nous a assigné à la place du mort et il en a oublié qu'on conduisait comme des cadors, trop tard pour les renforts, oh oui trop tard pour les remords, il a voulu nous exclure mais le danger était toujours à bord. Monsieur Connard prend un mauvais virage et se retrouve covoiturage, on vient forcer les derniers barrages pour laisser rouiller ce privilège au garage. Monsieur Connard prend un mauvais virage
On va évoquer maintenant un peu la charge mentale et le volume de responsabilité. Est-ce que, par exemple, est-ce que tu pouvais te tenir pour responsable d'une voiture qui sort du garage? Est-ce que c'est un flip, qu'elle soit sécu? Est-ce que tu es tenu pour responsable de ça?
Alors, en partie, je peux être tenu pour responsable, mais comme du fait de mon statut, il y a quand même... et ça, de toute façon, c'est dans tous les ateliers, je pense. Ça va être surtout le chef d'atelier qui va être responsable globalement de tout ce qui va sortir du garage. Mais l'ouvrier qui a travaillé sur une voiture va quand même potentiellement... Enfin, il faudrait voir au niveau juridique vraiment comment ça se répartit, les différents degrés de responsabilité. Mais je pense que le responsable de la structure est responsable juridiquement. Mais le chef d'atelier va aussi l'être, en fait, parce qu'il est censé contrôler le travail des ouvriers.
D'accord. Donc là, toi, ton travail était systématiquement contrôlé du fait de ton statut de contrat d'insertion?
Alors oui, du fait de mon statut, il y a quand même quelque chose qui se jouait sur la question de la légitimité, c'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient en contrat d'insertion pouvaient être perçues comme des personnes qui n'avaient pas forcément beaucoup d'expérience ou les mêmes compétences que les personnes titulaires. Donc sur ça, il pouvait y avoir plus de contrôle en fait sur notre travail. Et moi, dans un premier temps, vu que j'avais pas beaucoup d'expérience professionnelle, c'est quelque chose sur lequel ça pouvait me rassurer, justement d'avoir un retour sur un peu la tâche que j'avais effectuée et savoir si ça s'était bien passé, et puis voir un peu les points de sécurité avec quelqu'un qui pouvait me transmettre son expérience par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je pouvais moi me sentir assez en confiance par rapport à ce que j'avais fait, et c'était pas forcément facile de faire évoluer cette relation et du coup de pouvoir bénéficier d'un peu plus de confiance. Ça a pu se faire, mais c'était vraiment un travail un peu de longue haleine pour faire évoluer ça, jusqu'à un moment où j'ai eu un peu plus de confort et de confiance, mais il fallait faire un peu ses preuves, quoi.
Je reviens à une situation là qu'on n'a pas évoquée, en fait, sur l'ensemble des contrats d'insertion qu'il y a dans cette structure, tu étais la seule diplômée ?
Il y a eu différentes situations. Il y a eu des personnes qui étaient diplômées et qui avaient beaucoup d'expérience de garage, enfin qui avaient travaillé plusieurs dizaines d'années dans des garages. Il y a des personnes qui n'avaient pas de diplôme et qui ont passé un diplôme après être passées par le garage. Du coup, non, j'étais pas la seule, mais du coup, tout le monde avait des situations un peu différentes. Moi, ma situation particulière, c'était que j'avais peu d'expérience professionnelle. Je sortais de formation.
Mmh. D'accord. Voilà.
Mais toi, t'as la sensation que toutes les personnes en contrat d'insertion étaient contrôlées de la même façon, quel que soit leur degré d'expérience, finalement, ou leur capacité à prendre en charge des tâches?
Alors, globalement, oui, mais il y avait quand même quelque chose d'assez... qu'on pouvait quand même sentir d'assez différent en fonction de l'âge, par exemple. Et peut-être du genre un petit peu aussi, c'est-à-dire que je pense que les personnes qui avaient plus de 40 ans et qui avaient parfois une certaine expérience professionnelle, mais pour certains pas forcément, c'est-à-dire des personnes de plus de 40 ans qui étaient des hommes cis et qui n'avaient pas forcément une expérience de garage, pouvaient être perçues plus légitimes du coup que soit une meuf, soit des personnes plus jeunes, quelle que soit leur expérience professionnelle.
Est-ce qu'on peut parler de charge mentale, par exemple? Est-ce que tu arrives à couper quand tu sors, que tu t'es changé du garage? Est-ce que pour toi la journée est finie ou est-ce que tu peux encore turbiner dans ta tête
Alors globalement, par rapport à d'autres travails que j'ai pu faire à d'autres moments de ma vie, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, justement le fait d'avoir une tâche sur ma journée, d'aller au bout de cette tâche, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fini, en fait, la voiture elle sort et elle roule, et déjà d'avoir cette satisfaction-là. Et du coup, en termes d'enjeux par rapport à son travail, moi c'est pas des choses qui m'empêchaient de décrocher en fin de journée, et du coup c'est quelque chose d'assez agréable. Là où pareil, par contre, à des moments ça a pu me faire un peu de charge mentale après, c'est plus dans des situations de confrontation ou de conflit avec soit ma hiérarchie, soit avec des collègues, où là du coup ça pouvait être des périodes un peu plus chargé émotionnellement, mais pas tant lié après à mes tâches en soi, quoi. Plus une ambiance de travail qu'on peut avoir. Après, c'est des enjeux qu'on peut avoir dans n'importe quel type de boulot, quoi. Mais par rapport à la méca, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, de faire ma journée et de rentrer et de pas être prise par c'était assez rare d'avoir une réparation qui pouvait me stresser et du coup faire que je rentrais en cogitant encore à mes boulons et où est-ce qu'il fallait que je les remette après. Voilà, ça a pu arriver, mais très rarement, quoi.
Yep. Qu'est-ce qui pourrait être aidant dans ton travail? Tu disais, par exemple, que dans ta journée, tu ne pouvais pas du tout anticiper. Qu'on te donnait des missions au fur et à mesure et que du coup, tu n'avais pas de visibilité.
Ouais, c'est vrai que ça, à des moments, ça pouvait être un peu stressant et un peu limitant aussi parce que, en fait, le fait de ne pas avoir de visibilité sur toutes les voitures qui ont pris rendez-vous et du coup qui vont passer dans la journée, ça fait que c'est compliqué du coup de pouvoir négocier les tâches sur lesquelles on va être assigné. Et à des moments, ça peut faire des sentiments un peu d'être cantonné à certains types de tâches et de pas avoir la marge de manœuvre de dire bon bah en fait là je fais tout le temps ça, du coup là s'il y a ça, ça m'intéresse un peu plus et j'aimerais pouvoir plutôt basculer là-dessus. Il y a quelques moments où j'avais quand même trouver des petites façons de faire, de quand même choper les infos, de demander à mon chef d'atelier ou à mon encadrant technique de me dire un petit peu ce qu'il y avait sur la matinée et du coup de négocier des trucs. Mais c'était pas toujours évident de faire ça.
Qu'est-ce qui pourrait, dans d'autres structures ou dans celle-ci, qu'est-ce qui peut être aidant dans ce type de poste pour quelqu'un pour toi?
Moi, le fait qu'il n'y ait pas de réunion de travail, par exemple, ça m'a vraiment beaucoup manqué. Justement sur quelque chose de l'ordre de l'organisation collective du temps de travail. Et c'est vrai que dans une entreprise classique, je pense que j'aurais pas forcément eu trop d'attentes là-dessus parce que c'est quand même assez rare comme type d'organisation. Mais dans une association, je suis arrivée un peu naïvement. Mes premières journées, justement, j'essayais de comprendre un peu comment le travail était organisé. Et j'avais plutôt l'habitude de fonctionnement associatif, quand même un minimum collectif. Et en fait, non, là, ça fonctionnait vraiment comme une entreprise. Du coup, avec un fonctionnement très hiérarchisé. Et je pense que ça, c'est un peu... Enfin, pour moi, ça a été une limite, justement, sur le fait d'avoir de la marge de manœuvre à des moments pour négocier des choses. Et pas les négocier de façon tout le temps isolée, en fait. Parce que... ça a été compliqué sur des revendications qu'on pouvait avoir et qui pouvaient concerner en fait différents collègues et différents employés de la structure, de faire collectif. Et le fait d'en parler à la Post Club, en fait ça suffit pas. Tout le monde ne fume pas, tout le monde prend pas des pauses. On n'a pas vraiment des moments où tout le monde est là. Et du coup, en fait, chacun se retrouve à défendre son bout de gras de façon isolée, quoi. Et ça... sur plein de choses, c'était vraiment compliqué. Du coup, je pense que d'avoir des espaces de réflexion, de partage de... Puis même pour connaître en fait un peu le travail de tout le monde, parce que, par exemple, j'ai pu ressentir très régulièrement que les personnes qui travaillaient plus du côté administratif et qui étaient sur, par exemple, la facturation ou l'accueil client, avait vraiment manqué beaucoup d'informations sur la partie atelier et du coup le travail en atelier. Et du coup la relation entre les deux pôles n'était pas évidente et le fait de ne pas avoir des moments justement pour comprendre c'est quoi les tâches et la façon de travailler des uns et des autres, ça pouvait vraiment être une limite et jouer sur les relations aussi. Et après il y avait la question du genre qui jouait beaucoup aussi sur comment les uns et les autres se parlaient. Mais le fait qu'en fait souvent ça soit du coup les femmes du pôle administratif qui viennent réclamer des informations sur des aspects techniques à des mécanos et qui sont plus ou moins, ouverts à pouvoir partager ça et du coup à comprendre et à prendre le temps aussi de comprendre les enjeux pour l'autre personne, de pourquoi elle pose des questions. Ça jouait beaucoup sur la dynamique de la structure elle-même et du coup sur cette vraiment séparation entre les deux pôles, quoi. Et ça, c'était assez dommage.
Est-ce que tu veux nous raconter un moment de blues et un chouette moment pour toi dans ce taf?
Ouais, et un moment de blues. Alors moi, ce qui a été à des moments compliqués, c'est que, par exemple, tous les espaces de travail et les outils ne sont pas pensés en fonction des différences de corps où tout est calibré sur, je pense, en tout cas assez normatif, c'est-à-dire fait pour des gars qui ont certainement une certaine taille et une certaine corpulence. Et du coup, je pouvais me retrouver un petit peu à galérer avec certains outils, et notamment avec le bac
de... Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur... sur ton format?
Ouais, moi je suis plutôt petite et du coup par exemple l'établi était trop haut pour moi, Quelques outils comme ça qui étaient vraiment pas très adaptés, quoi. Du coup, ça demande toujours un peu de s'adapter ou de penser à comment compiler différents outillages pour après arriver à quelque chose qui colle à peu près. Et là, notamment, je pense qu'une de mes looses, c'était avec le bac de vidange, qui est un bac, en fait, assez... Normalement, qu'on met à hauteur, qu'on passe sous la voiture. C'est-à-dire que quand on va ouvrir le carter d'huile et on va dévisser le bouchon de vidange, ça va se verser directement dans un bac qui est sur pied et qu'on ne porte pas. Ça évite soit de le mettre au sol et que ça gicle partout, soit de porter quelque chose à hauteur et du coup d'être de forcer, quoi. Donc on a cette espèce de grand bac à vidange sur roulette et donc on met la voiture sur le pont, on lève la voiture, on dévisse le carter d'huile. Et l'huile se déverse dans le bac. Et comme en fait il a été réglé à la hauteur de mes collègues et que la vis qui permettait de régler a été pétée, je peux jamais le remettre à ma taille. Donc en fait j'ai pas accès visuellement à ce qu'il y a à l'intérieur du bac. Donc en général je vérifie qu'il n'y a pas un filtre à huile ou quelque chose qui a été laissé. Et là cette fois-ci j'ai pas pensé. J'ai oublié de vérifier. Et en fait le bac était blindé de filtre à huile qui avait été déposé lors des précédentes vidanges. Donc j'ouvre mon bouchon d'huile, je me colle pour pousser le bac à vidange sous la voiture, et là l'huile commence à se déverser et en fait ça fait un rebond sur un filtre, puisque du coup le bac était chargé, et là j'ai toute l'huile qui me revient en rebond dans la gueule et je me prends une douche d'huile de vidange. Donc je suis refaite, je suis repeinte d'huile, j'en ai partout, et là t'as tous mes collègues qui hurlent de rire, qui sont morts de rire. Bon, du coup, moi, ça m'a quand même fait un peu rigoler, mais c'était quand même hyper chiant, quoi. Et puis, du coup, j'ai fini la journée avec les fringues de mes collègues qui étaient 20 fois trop longues pour moi. Donc, c'était un peu la loose. Donc, ouais, c'était pas dramatique, mais c'est des petites situations où, en fait, qui pourraient être évitées si on avait les bons outils, ou en tout cas des choses qui pourraient être réglées. Ou... Voilà, donc ça, c'était un petit peu la loose et un peu la teon aussi.
C'était au début de ton contrat, juste pour savoir un peu.
Heureusement, pas au tout début, parce que je pense que là, vraiment, en plus, je me serais fait bien, bien chambrer. Là, non, ça va, ça faisait quand même quelques temps que j'y étais, donc même si c'était quand même un peu la honte, ça aurait pu arriver à d'autres.
Ouais. Et un moment chouette ?
Et un moment chouette. Alors, pour moi, les moments chouettes, c'était quand mes collègues me demandaient des conseils. Et bon, c'est à la fois chouette et pas chouette, parce qu'en fait ça devrait être normal, mais en fait c'était pas forcément dans ce sens là que ça se passait. C'est à dire qu'il y avait quand même un minimum un travail d'équipe. À des moments on va s'entraider sur des trucs où il faut un peu forcer, du coup c'est plus pratique d'être à deux, ou des poids lourds, genre descendre une boîte de vitesse où il faut être à deux pour la porter, ou alors on va se donner des conseils, puisqu'il y a quand même en tout cas dans cet atelier là il y avait quand même un truc un peu de se filer des billes, quoi, parce qu'il peut y avoir beaucoup de compétition dans les ateliers mécaniques, mais là ça se ressentait pas tout le temps. Ça pouvait dépendre suivant les personnes qui arrivaient. À des moments il pouvait y avoir un peu plus de compétition qu'à d'autres, mais globalement on va dire que les personnes qui étaient là de façon un peu pérenne posaient une ambiance plutôt d'entraide, quoi. Et du coup j'ai pu sentir quand même à plein de moments que quand il s'agissait de porter des choses lourdes ou de demander vraiment des conseils un peu pointus et techniques, alors quand bien même que des fois j'étais là depuis plus longtemps que la personne à qui on allait demander, c'était quand même pas à moi qu'on allait le faire. Oui. Et du coup ça a pu vraiment être je trouvais ça vraiment très injuste, et du coup ça pouvait être vexant. Du coup les bons moments pour moi, c'est quand il y a des personnes qui me demandaient de sortir les boîtes de vitesse, de filer un coup de main, de forcer et de me demander des conseils, de reconnaître un peu ma légitimité, quoi. Ouais.
Ça ressemble à quand je fais de la méga, pas trop la confiance et j'ai pas la méga chance. Je m'égare dans la métaphore, mais j'ai la tête dans le métal. Je crois qu'il y a un blème dans les virages, penche trop. Et je pense que l'aiguillage flanche trop. Mais sous la vague, je suis claustro. Si la canne se la tchache, finis à l'hosto. Franchement, faut que je m'y penche, j'ai pas le choix. Y'a pas de pied au blanc et je fais pas le show. Si je monte dans les tours, c'est fumée noire qui sort du pot blanche sous le capot. Peut-être je suis en radeau. Ouais, je sais, je suis rapteux, déjà les mains crades, j'espère juste que mon fan te le capte. J'passe la soirée à réparer les phares, ça fait serrer, j'ai repéré les stars. Sûr que sentir, je vais passer un sale hiver, et pas sûr consentir sur certains tests salivaires.
fait chaud frère, j'ai tout du chauffard. J'ai avec le rétro, j'ai des grosses cernes, merde. J'ai pas que plan, les poches tard. J'ai refaire peur bleu, mais j'vois rouge comme dans mon réservoir. Colère noire, et j'déteste voir leur sale gueule. Entre rage et désespoir, j'rentre pas seul. Retour à la case départ, si la caisse démarre pas, j'l'engueule. Faut que j'passe à la case demain. Besoin de pièces, de traces et de tasses de vin. Si t'es pressé, passe devant. J'vais pas le devin, mais c'est comme dans la vie pour résoudre les problèmes. J'prends masse de temps.
Ma caisse tout seul, passe-moi la clé. 13h-12h, malgré les sous-pousseurs. J'pars en zing avec les cousins. Ma caisse douce, passe-moi la clé de 13-12. Malgré les secousses et les decks, j'pars en zinc avec les cousins en break. Allez, j'en braye, roule, t'inquiète, on va pas se tracasser. J'mettrai les mains dans les entrailles de la bête jusqu'au coude, même avec les bras cassés. J'kiffe la vitesse, mais j'suis pas en mécanique. J'ai du campouis tout par sauf sur mes canines.
Mais bon, des fois faut s'y mettre. Plus envie de zinguer en stop ou en trottinette. J't'arrête net, j'parle pas bolide ou jet. Moi c'est ZX breakdown, puis j'ai toute nénette. Puis j'ai pas toute la technique, la logique met des piches nettes dans ma tête. Il faudrait que j'évite de péter la durite. Dans tous les cas, t'inquiète, y'aura pas de fuite. J'rassemble les filles sans tard devant mes pieds de chrysanthème. C'est pour ça que j'y sans tarder en espérant qu'entre deux prisons m'aide. Ma strap est en prison, merde. Je devais checker ma voiture, tant pis j'attendrai la fin de son fer. Mais on ira péter des rotules. Les problèmes n'arrivent jamais tout seul. Ça fait pas tout, mais si j'avais ton sol, ben je serais pas tout sale. J'aurais moins mal au cou, ça force pour desserrer les crous. Ça c'est le constat, mais gros, je me console sur des routes instables. Je consomme plus, mais j'apprends à perdre le contrôle. À m'évader des tours des carousels, à trouver mon chemin sans la boussole. Sans l'étincelle, faut pousser. Heureusement, je suis pas tout seul. Je demande à Momo et Jaja, Juju et Tata Niette. Elle me sort de la lerga, grâce à la MIFA, tu peux quitter ta tanière. En cas de crash, serait ton airbag.
Ma caisse est douce, passe-moi la clé de 13-12. Faut qu'on me pousse, j'pars en zing avec les cousins. Ma caisse est douce, passe-moi la clé de 13-12. Malgré les secousses et les decks, j'pars en zing avec les cousins en break. Allez, j'en braye, vroom, t'inquiète, on va pas se tracasser. J'mettrai les mains dans les entrailles de la bête jusqu'au coude, même avec les bras cassés. J'kiffe la vitesse, mais j'suis pas fan. J'ai du camp et tout par sauf sur mes canines. Turbo diesel rouge dans l'injection. Jamais de vague aux tendances. Toujours du jeu dans la direction.
Nous raconter pourquoi est-ce que tu as fait staff, pourquoi est-ce que tu fais staff plutôt qu'un autre.
Une question. alors, ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, je me suis intéressée à la mécanique bien avant de me dire que j'allais devenir mécana. Je pense que mon envie de me mettre un peu les mains dans le cambouis, c'est venu du fait que souvent je trouvais les rapports avec les garagistes assez compliqués. C'est-à-dire que j'ai eu une voiture depuis longtemps et du coup, les fois où je devais aller au garage pour faire des réparations, en fait, je trouvais que les personnes ne prenaient pas forcément le temps de très bien expliquer ce dont il s'agissait ou franchement renvoyer des trucs un peu nuls, de même pas penser que tu pouvais comprendre ce qu'ils te racontaient, quoi, donc de même pas prendre le temps de le faire. Donc après quelques mauvaises expériences comme ça, qui m'ont foutu un peu les boules, je me suis dit que j'avais envie d'avoir un peu débit, d'acquérir un peu des compétences là-dessus. Donc j'ai commencé un peu bricoler sur mes voitures, et puis après sur Toulouse, il y a un collectif qui s'est monté qui s'appelait Mécameuf. Où du coup l'idée c'était de se retrouver plutôt entre femmes et personnes queer pour apprendre à s'occuper de nos voitures et du coup s'entraider aussi sur des réparations. Et ça a duré quelques années et ça m'a vraiment donné le goût la méca et aller plus loin, parce qu'à des moments on a pu se sentir un peu limité, justement comme on découvrait la méca ensemble et qu'il n'y avait pas forcément des personnes qui avaient des expériences plus poussées que un peu de la maintenance ou des petites réparations. On a pu être un peu frustrés de ne pas pouvoir aller plus loin. Et à cette époque-là, on a été quelques personnes à se dire en fait là, maintenant j'ai bien envie de pousser un peu le truc et puis peut-être pourquoi pas faire une formation. Du coup, moi j'ai fait un peu partie de cette vague-là. Au final, quand on m'a proposé lors d'un entretien Pôle emploi de pourquoi pas faire une formation, passer un CAP, finalement je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que ça pouvait être l'occasion. Et après, je pense que ce qui m'intéressait aussi, c'est de me dire que, en fait, avec la méca, déjà c'est plutôt un milieu professionnel qui recrute, du coup, trouver du boulot, je pense que c'est globalement pas forcément très compliqué. Mais c'est aussi un taf où en fait tu peux bosser un peu toi de ton côté. Et ça donne une certaine sécurité que je trouvais assez rassurante aussi. D'avoir des compétences qui te permettent de pouvoir te démerder, que ça soit dans un cadre professionnel ou pas.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu les maladies professionnelles de la mécanique?
Ouais.
C'est quoi?
Alors la mécanique, ça va être pas mal de maladies pulmonaires, parce que du coup c'est un travail où en fait on est beaucoup amené à travailler dans de la poussière. Ça va être de la poussière de métal, ça va être la poussière de la poudre qu'on utilise pour absorber tous les liquides qui vont couler quand on travaille sur une voiture. Et du coup, les ateliers sont plus ou moins grands, plus ou moins aérés, et suivant l'espace de travail, on va être vraiment pendant tout le temps de travail sur à travailler dans de la poussière, quoi. Après, il y a des réparations qui vont encore plus favoriser ça, c'est que des moments on va devoir vraiment gratter du métal, de la vieille poussière sur les voitures, et puis limer aussi des plaquettes de frein, donc ça va vraiment faire de la poussière. Donc toutes les maladies pulmonaires, et après tous les problèmes de dos, les problèmes de tendinite. J'ai des collègues vraiment qui avaient des problèmes de dos, un collègue notamment qui me disait que lui il n'arrivait plus à dormir pratiquement la nuit parce qu'il avait tellement de problèmes de tendinite que du coup il savait pas comment se mettre dans son lit pour pas avoir de douleur. Et quand il restait plus de 5-10 minutes à travailler les mains en l'air, il avait des crampes vraiment hyper douloureuses et du coup il avait de plus en plus de mal à pouvoir faire ce travail là et il avait pas 30 ans, quoi.
Les cancers, c'est des trucs qui sont discutés comme maladies professionnelles chez les mécanos ou pas?
Franchement, c'est pas une culture de travail de la sécurité. Il y a vraiment quelque chose, je pense, qui est justement un peu de l'ordre de la compétition dans un espace de travail masculin qui fait qu'en fait, il y a un truc de jouer un peu les durs, quoi. De pas trop se protéger. Normalement, on est censé avoir accès à du matériel de protection et en fait, c'est pas toujours le cas. Et quand c'est le cas, mes collègues ils l'utilisaient pas, quoi. Du coup, que ça soit pour le bruit, que ça soit pour les yeux, que ça soit pour les masques, pour éviter de respirer des poussières, franchement, la plupart du temps, c'est moi qui râlais pour avoir accès à du matériel et mes collègues plutôt, ça les faisait marrer, quoi.
Parce que c'est considéré comme des outils qui sont pénibles à utiliser, qui rendent le travail plus complexe ou...
Alors c'est vrai qu'il y a un aspect pénible, le fait d'avoir un casque ou d'avoir des lunettes, les mettre, les enlever, ça fait prendre du temps, mais c'est aussi les conditions de travail qui font que ce temps-là, des fois, on se l'autorise pas. Parce que quand on est dans une ambiance un peu à flux tendu, où il y a du stress, il faut aller vite et tout, tu vas pas prendre le temps d'aller péter à l'autre bout du garage où il y a justement tous les outils de sécurité. Et puis le fait de ne pas en avoir tous sous la main aussi, en fait on pourrait le mettre dans nos caisses et là on en a juste un exemplaire pour tout le monde et du coup c'est rangé à un endroit précis où il faut aller péter, du coup tu fais 15 pas de plus et dans la journée c'est pas rien parce qu'on est déjà debout toute la journée, du coup bah, en fait, ouais, du coup, on piétine quand même pas mal. Donc, je pense qu'il y a l'accessibilité, il y a la quantité de matériel qui n'est pas suffisante. Et après, vraiment, je pense qu'il y a aussi une culture de travail qui fait que... bah, je le vois par exemple sur la question des charges lourdes et des positions de travail, c'est que souvent mes collègues, alors que par ailleurs il y aurait des techniques qui permettraient d'utiliser l'outillage de façon à pas forcer, bah, j'ai quand même certains collègues qui vont se mettre en spectacle à montrer à quel point ils sont trop forts et qui vont réussir à forcer avec juste une pauvre petite clé super courte, alors qu'en fait tu utilises un autre outil, bah, tu fais ça du bout des doigts et t'as pas besoin du tout de... Et, ou alors de porter une boîte de vitesse tout seul parce que c'est super devant tout le monde de montrer que t'es bodybuildé, que tu sais porter ta boîte de vitesse, et puis après c'est le même qui va me dire qu'il dort pas parce qu'en fait il a trop mal au bras, quoi. Ouais. Et ça, je pense que ouais, il y a un peu une ambiance comme ça. Je l'ai vu aussi avec les jeunes qui arrivaient, les plus jeunes là de 18 ans qui avaient un peu... bah, qui devaient un peu faire leur preuve parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de légitimité, et souvent ça passait par ça, par le fait de montrer qu'ils étaient capables physiquement et que c'était des bonhommes, quoi.
Tout à l'heure tu parlais de mécanique lourde pour les trucs plus techniques. Est-ce que ça a à voir aussi, enfin, est-ce que ça va dans le sens de ce que tu viens de nous expliquer? Ouais. Comme des choses qui seraient plus valorisées?
Ouais, il y a une hiérarchie qui se fait beaucoup par rapport à ça. C'est que par exemple, démonter une boîte de vitesse, en vrai, c'est pas quelque chose de très compliqué. Ça demande aucune spécialité. Faut juste enlever quelques vis, savoir ce qu'il faut enlever. Et, c'est un niveau, enfin, maintenance, qu'en fait, c'est de la maintenance de changer un embrayage ou une boîte de vitesse. Mais le fait que ça soit lourd, ben, ça va faire que effectivement, cette tâche va plutôt être donnée à certaines personnes. Okay. Et c'est ça pour beaucoup de choses. Enfin, il y a beaucoup de tâches qui vont être plus ou moins, qui vont demander plus ou moins de force, en fait. Et c'est vrai que peut y avoir des répartitions différentes en fonction de la force supposée que demanderait une tâche, alors que par ailleurs l'outillage justement permet de pas avoir besoin d'une force énorme, en fait, pour faire certaines activités.
Toi, t'as arrêté de faire ce taf pour l'instant? Tu penses que tu vas y retourner?
Alors là, moi, j'ai arrêté depuis 6 mois et bah, je suis un peu travaillé entre l'idée d'avoir envie d'y retourner parce que je sens que j'aimerais justement continuer vraiment à me former et que sur l'aspect diagnostic panne moteur et mécanique un peu plus lourde, bah, j'ai pas eu beaucoup de possibilités de mettre les mains et d'acquérir de l'expérience par rapport à ça. Et que c'est vrai que vraiment travailler, bah, ça le permet. Enfin, quand on est dans un cadre en tout cas où c'est possible, bah, du coup c'est un peu la version accélérée pour. Mais en même temps, ouais, c'est une ambiance de travail qui n'est pas forcément tout le temps évidente. Et c'est vrai que là, le fait de faire une pause, ça permet aussi un peu d'évacuer un peu des ressentiments qui ont pu s'accumuler à des moments sur ouais, un peu les on va dire les tensions internes ou. Parfois le manque de légitimité qui peut être envoyé.
Est-ce que dans le taf de mécano, il y a des choses qui te posent des problèmes de conscience?
Je pense que le fait de travailler dans un garage associatif et pas pour une entreprise qui se fait de la thune sur le dos de ses clients, ça a un peu réglé ça pour moi, parce qu'il n'y avait quand même pas quelque chose de l'ordre de faire du bénéfice, on va dire, quoi. Du coup, non, j'ai pas été trop confrontée à des questions qui ont pu vraiment peser sur ma conscience. Je pense qu'il y a toujours plusieurs façons de travailler sur un véhicule. Et c'est vrai que bah, quand tu sais que t'es face à un client qui a pas forcément beaucoup de moyens et tout, bah, en fait, tu peux toujours trouver une façon qui va pas lui coûter forcément très cher. Et je pense que dans les garages plus classiques, ils ne s'emmerdent pas trop de ce genre de considération. Du coup, c'est pas forcément de l'arnaque, mais c'est plus des façons de travailler qui ne sont pas celles de garage où on va quand même toujours chercher un peu à arranger la personne, quoi.
Toi, tu penses ça ressemble à quoi, ce taf, dans 10 ans?
Ben, c'est possible qu'il évolue pas mal parce que du coup ben, la plupart des voitures sur lesquelles moi j'ai été formée à travailler, donc les moteurs thermiques, essence et diesel, ben, en fait c'est des véhicules qui bientôt vont beaucoup moins être produits, voire qu'ils vont plus être produits du tout. Et du coup Bah, là, on est plutôt en train de pousser vers de la voiture électrique ou de nouvelles formes de technologies sur lesquelles, moi, par exemple, j'ai pas du tout de compétences et pas de formation. Du coup, dans 10 ans, c'est possible que ça soit pratiquement un autre métier. Un métier beaucoup plus tourné sur l'électronique et l'électricité, ouais.
Et tu penses que c'est le même genre de gens qui continuera à faire ce taf ou...
Ouais, c'est pas dit, ouais, je sais pas. Je sais pas trop.
Est-ce que tu veux nous parler un peu de luttes auxquelles tu aurais participé ou dont tu as entendu parler dans le milieu de la mécanique? Est-ce qu'il y a des luttes? Qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là dans cet univers de taf?
Moi, j'ai pas eu de retour d'expérience de lutte dans le milieu de la mécanique, dans les garages en tout cas. Après, j'imagine que dans les usines de montage, plus des... Là, il y a probablement des histoires de lutte, mais en tout cas, plutôt l'aspect entretien, réparation. J'ai l'impression que c'est quand même un milieu de travail qui a pas développé une culture de la lutte collective. Enfin, j'ai jamais vu ça, moi, dans les ateliers dans lesquels j'ai travaillé, et plutôt, j'en ai jamais entendu parler. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque pas mal, parce que, en fait, de fait, on se retrouve quand même à avoir des conditions de travail qui sont parfois... pas terrible, ou en tout cas il y aurait des revendications à apporter, et en fait chacun se démerde un peu dans son coin pour pouvoir le faire individuellement, et ça avance du coup pas beaucoup, quoi.
C'est souvent des petits patrons qui tiennent les ateliers, mais des fois il y a quand même des grosses multinationales.
Ouais, il y a des grosses
nationales.
Marques,
Est-ce que tu sais si les ambiances sont différentes?
Non, moi j'ai pas du tout d'expérience de ces boîtes là du coup je sais pas vraiment comment ça se passe. C'est possible qu'il y ait des syndicats vraiment dans les grosses marques. Enfin, je sais pas. Ouais.
Une dernière question. Cette structure associative qui finalement ressemble un peu à une entreprise de par sa hiérarchisation. Est-ce que tu connais, est-ce que tu as l'expérience d'autres structures associatives dans le domaine de la mécanique qui arrivent à fonctionner plus collégialement et plus horizontalement?
Alors, je sais qu'il y a d'autres garages associatifs, en tout cas à Toulouse, qui ont un peu le même type d'activité, du coup, mais je connais pas très bien leur fonctionnement, à part peut-être Roule-ma-frite, où là, je sais qu'il y a un fonctionnement en collégial. Et du coup, donc c'est un fonctionnement où les prises de décision sont actées, enfin, tout est discuté collectivement, et toute personne qui a envie de s'investir dans l'association peut participer à cette collégiale. Donc ça c'est quand même assez différent, ouais. Après je sais pas plus vraiment sur le fonctionnement ou concrètement comment ça se passe, mais en tout cas ils ont mis en place ça, ouais.
Pour toi la suite ça ressemble à quoi en termes de méca, à ton avis? T'as déjà un peu répondu, mais...
Et ben là pour l'instant c'est pas forcément dans le milieu professionnel que je vais continuer à faire de la méca, mais après je fais partie d'une association qui est en train de développer un projet pour monter un atelier sur Toulouse de mécanique. Alors pour faire plus des ateliers soit d'autoréparation, soit pour apprendre et se transmettre des billes sur la mécanique. Et du coup, on a monté une asso et ouvert un local là pour proposer ça à Toulouse. Donc plutôt un atelier féministe et ouvert en mixité choisie sans hommes cisgenres. Et l'idée, ouais, c'est vraiment de se familiariser un peu plus avec nos véhicules pour apprendre à être un peu plus autonome aussi sur nos réparations, quoi.
Et répondre à l'enjeu, j'ai l'impression, pour toi, autour de cette question qui est la pédagogie. J'ai l'impression que c'est un gros bidule.
Ouais, c'est sûr que c'est des espaces où, du coup, on peut prendre le temps de ça et réfléchir à quels outils on met en place pour que ça soit possible de transmettre, en réfléchissant au rapport de pouvoir que ça suscite aussi, le fait d'avoir des savoirs différents et du coup, de prendre ça en compte, quoi.
Merci.
Super.
Merci. Merci à vous.